Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polothèque
et préparée par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Valérie Higounet et Michael Prazan, les deux auteurs du film documentaire « Les faussaires de l'histoire », produit avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui sera diffusé le 28 septembre prochain sur France 5 à 22h25. Alors vous revenez tous deux dans ce film sur 70 ans d'histoire du négationnisme, puisque finalement la négation des crimes nazis est intervenue dans les mois qui ont suivi la libération des camps. Alors on suit pas à pas l'évolution de ce discours, de ces théories qui naissent tout d'abord dans les milieux d'extrême droite et qui servent à dédouaner les nazis et leurs collaborateurs. Mais vous montrez très bien comment, au fil des décennies, cette théorie révisionniste va prendre de nouvelles formes, rencontrer de nouveaux théoriciens, de nouveaux soutiens, et ce dans des milieux que l'on n'aurait jamais soupçonné de collusion avec l'extrême droite. L'aboutissement de ces alliances improbables, c'est la conférence organisée par Téhéran en 2006, sur laquelle vous avez choisi d'ouvrir ce film, Michael Prazan.
Oui, absolument. C'est l'itinéraire, l'histoire d'un discours, plus finalement que l'analyse de ces théories, et je le mettrai entre guillemets. Et effectivement, c'est une histoire au long cours qui va subir un certain nombre de modifications, de reformulations, de réorientations. Et on a décidé avec Valérie de montrer cette histoire en chapitrant pour bien montrer les différentes étapes de ces réorientations successives de ce discours jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, dont on pourrait penser qu'il est derrière nous, ce discours, mais en réalité, après son exportation dans les années 90 vers d'autres territoires et notamment vers le monde arabe, même s'il est relativement résiduel aujourd'hui en France, le discours négationniste, il a pris racine sur d'autres territoires et il constitue encore une menace pour la mémoire et pour l'histoire.
Alors on va peut-être revenir tout d'abord aux origines du révisionnisme, notamment en France. Valérie Higounet, vous citez notamment l'apparition en 1948 du livre de Maurice Bardèche, Nuremberg ou la Terre promise. On peut considérer que c'est un peu les fondements?
Oui, alors en fait, c'est vrai que Maurice Bardèche est l'initiateur du négationnisme. Alors je voudrais déjà apporter une précision si c'est possible. On emploie avec Michael et dans la communauté historienne d'ailleurs le terme négationnisme, parce que pour nous c'est vraiment du négationnisme, de la négation de l'histoire et non pas une révision. Une fois cette précision faite, c'est vrai que c'est Maurice Bardèche donc qui a lancé ce discours. Maurice Bardèche, pour le resituer dans la galaxie de l'extrême droite, c'est entre autres le beau-frère de Robert Brasillach, et c'est quand même un homme qui se revendique très très tôt fasciste. Donc ce qui est intéressant et ce qui est très important, c'est de dire que ce négationnisme, ce discours, naît à l'extrême droite dans un contexte qui est entre guillemets pas très porteur, puisque c'est vrai que nous sommes 3 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui explique aussi qu'il végète pendant plusieurs décennies, puisque évidemment que le souvenir est proche et que ce discours n'a pas de véritable porteur, puisqu'il est discrédité directement par les personnes qui le portent, donc en France et à un niveau international.
Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit dès les années 50 que ces théories négationnistes donc, vont venir de personnalités a priori très loin de l'extrême droite. Je pense notamment à Paul Racigné, ancien résistant, qui a été lui-même déporté à Buchenwald, membre de la SFIO, et qui va par le biais de l'anticommunisme arriver au négationnisme. Donc c'est des personnalités comme ça déjà très diverses, Valérie Higounet.
Oui, c'est ça. Mais alors ça, c'est vraiment en plus une spécificité française. Il faut savoir qu'il y a plusieurs aspects dans votre question. La première, c'est vrai que donc Maurice Bardèche est totalement discrédité, on va dire, par son parcours de fasciste notoire. Et c'est vrai que très vite, le négationnisme va chercher des porteurs qui vont être capables, entre guillemets, de le diffuser et qui vont se revendiquer, on va dire, de l'ultra-gauche ou de l'extrême-gauche. Alors Paul Racigné est un homme qui a été déporté dans des camps de concentration. Il n'y avait pas de chambre à gaz, je le précise aussi. Et c'est vrai que dans cet aspect de la question, il y a un itinéraire politique, il y a certaines vedettes du négationnisme qui vont dégager, mais il y a aussi un aspect psychologique qui est très important dans cette histoire du négationnisme, c'est que ce sont aussi des gens qui, pour certaines raisons, vont vouloir aussi se faire connaître avec cette théorie. Donc Paul Racigné est, entre guillemets, de gauche, a un parcours, a été député, etc. Mais c'est vrai que c'est aussi ces théories permettent aussi une certaine, on va dire, entre guillemets, reconnaissance.
D'accord.
Oui, moi, il y a deux choses que j'aimerais ajouter. La première chose, c'est de désenclaver l'antisémitisme de l'extrême droite, qui est en fait un lieu commun, mais qui n'a pas vraiment de réalité historique. L'antisémitisme a toujours eu deux racines communes, une de gauche, enfin, en tout cas distincte, pardon, une de gauche et une de droite. Et donc, il n'est pas si étonnant, au fond, puisque le négationnisme, c'est un antisémitisme, avant d'être une théorie ou je ne sais quoi, pseudo-scientifique. Donc c'est une version de l'antisémitisme, et de ce point de vue-là, d'une certaine manière, même si notre époque contemporaine y est un petit peu moins habituée, il y a, sans l'ombre d'un doute, une racine de gauche. Par ailleurs, ce que j'aimerais ajouter à ce que vient de dire Valérie, c'est que finalement la communauté qui rassemble ces gens-là, c'est à mon avis un facteur avant tout psychologique. J'ai toujours pensé que l'antisémitisme était le dernier recours des vaincus. Et c'est une... L'antisémitisme est porteur, il permet, pour certains en tout cas, de sortir justement de l'anonymat, et on le constate d'ailleurs jusque très récemment. Et donc ce qui correspond finalement à l'après-guerre, c'est que c'est des gens qui ont été vaincus par l'histoire. Et donc l'antisémitisme, ici le négationnisme, va représenter un recours, comme il représentera ensuite un recours pour quelqu'un comme Racinier, qui a subi des défaites électorales, qui est un peu dans le creux de la vague politique, et qui va finalement... avoir comme un recours, comme un ressort à travers ses écrits et notamment le mensonge d'Ulysse. Et finalement, si on poursuit jusqu'à aujourd'hui, on pourrait faire à peu près la même analyse psychologisante de personnages tels que Soral ou Dieudonné.
Et moi, si je peux me permettre aussi, et pour compléter aussi, ce qui est aussi passionnant dans ce discours, dans ce négationnisme, c'est que c'est vraiment un terme, c'est un substitut langagier qui recouvre plusieurs facettes, c'est-à-dire, comme le dit Michael, évidemment, l'antisémitisme de gauche ou d'extrême gauche ou d'extrême droite ou de gauche, mais il y a aussi évidemment l'antisionisme qui est une facette primordiale, et on voit bien que justement, quand on dit que le négationnisme végète, on va dire, pendant les premières décennies, les deux premières décennies, le moment où il va commencer à prendre un certain essor, c'est vraiment à partir de 67 de la guerre des six jours. Et il y a justement cette étiquette d'antisionisme, entre guillemets, hein, qui va se racoler à cette facette. Donc, si vous voulez, négationnisme va signifier plusieurs mots. C'est vraiment, on est antisémite, on est antisionisme, entre guillemets, etc. Donc, c'est ça aussi qui est passionnant dans ce discours, c'est les différentes articulations et les différentes mutations du négationnisme avec un contexte historique national et surtout international.
On voit quand même dans le film, Valérie Aigounet, que les années 70 sont aussi un moment où le discours négationniste va commencer à s'exprimer de plus en plus à l'extrême droite, c'est-à-dire notamment au Front National, aussi parce que le souvenir de la guerre s'éloigne peu à peu, c'est ça ? Il y a une sorte de tabou qui...
Alors il y a cet aspect, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a tout à fait, c'est vrai qu'il y a un aspect par rapport à l'histoire de la guerre, le souvenir s'estompe, hein, et puis il y a aussi, on va dire, du travail à faire sur cette période qui va être fait bien, qui commence, hein, il y a certains bouquins qui vont commencer à sortir. Il y a ce que je vous disais tout à l'heure, un contexte international, il y a 67, il y a 74, la guerre du Kippour, donc l'histoire d'Israël est aussi accolée au négationnisme, on se déclare anti-sioniste, entre guillemets, je redis, et il y a aussi certains idéologues qui apparaissent. Là, il y a un moment l'émergence de quelqu'un qui s'appelle François Duprat, qui est très actif au sein de l'extrême droite, et il va y avoir un homme qui va porter ce discours, qui s'appelle Robert Forisson, qui dans les années 70 travaille dans l'ombre, mais qui a un but avant tout, c'est d'émerger sur la scène médiatique française, et qui y parviendra via le négationnisme.
Ça, c'est effectivement la grande nouveauté, c'est-à-dire que cet homme, Robert Forisson, qui est un agrégé de lettres, spécialiste oui. de Lautréamont, oui, qui va vraiment porter le discours négationniste dans l'espace médiatique. C'est ça, sa spécificité,
oui,
ou lui-même, d'après ce que vous
dites. C'est ce qu'on voulait aussi vraiment montrer dans le documentaire avec Michael. Cet homme est un homme singulier pour diverses raisons. Alors c'est un homme qui est, comme vous le rappelez très justement, qui est un littéraire, qui a essayé pendant à plusieurs reprises de sortir de l'anonymat par des thèses assez provocatrices qui concernent la littérature, qui n'y est pas parvenu. Et c'est vrai que via le négationnisme, cet homme qui a vraiment une pensée quand même et qui l'a beaucoup occulté à l'extrême droite va réussir à déclencher un scandale en France. La France qui est un pays singulier aussi par rapport évidemment à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et par cet homme, le négationnisme va être connu, oui.
Le fait qu'il soit universitaire, qu'il soit voilà, associé à un milieu intellectuel, c'est ça qui va aussi lui donner une sorte de légitimité, en tout cas pour les médias.
Oui, sans aucun doute. C'est vrai que c'est une spécificité française, et d'ailleurs c'est très bien dit dans le film, notamment par l'historien Henri Rousseau. On a en France un droit à la parole, un droit médiatique à partir du moment où on a un certain nombre de lettres de noblesse à faire savoir. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de quartier de noblesse, mais de diplôme universitaire. Peu importe au fond que Forisson ne soit pas historien, c'est un agrégé de lettres. Mais enfin, il a des diplômes et ça lui donne un discours d'autorité et ça lui donne accès à des tribunes médiatiques. Alors, on peut quand même s'interroger aujourd'hui sur le fait que des journaux si respectables, des quotidiens tels que Le Monde, lui aient donné si facilement la parole pour étayer ou en tout cas montrer ou faire savoir des thèses aussi absurdes et abjectes. Mais enfin, c'est vrai que le contexte français favorise d'une certaine manière l'émergence médiatique de ce type de personnage, ce qui est probablement moins vrai dans d'autres pays européens ou sur d'autres territoires. Cela étant dit, vous parliez ou vous évoquiez les années 70, ce sont aussi des années centrifuges, des années d'internationalisation, parce qu'il y a certes la figure de Forisson en France, mais il y a d'autres figures à l'étranger, d'ailleurs très souvent issues d'une extrême droite très radicale, néo-nazie, voire même issue du contexte allemand, de gens qui ont immigré, par exemple, au Canada, mais qui sont issus eux-mêmes de l'histoire allemande, et qui vont faire écho à ces thèses un peu sur tous les continents, et créer
aussi
des lieux de... Voilà, bien sûr, David Irving, qui est assez présent aussi dans notre documentaire, qui est sans doute d'ailleurs l'une des figures les plus importantes, les plus charismatiques, les plus activistes de la conque internationale du négationnisme. Donc il y a aussi ce potentiel mondialisé qui se met en marche à partir de cette décennie-là.
Et cette collision, peut-être vous pouvez nous en parler, Valérie Gonnet, avec donc les milieux d'extrême-gauche antisionistes. C'est ça qui va faire cette... qui vont d'ailleurs se retrouver d'une certaine manière autour de la figure de Pierre Guillaume, qui va, à travers les éditions La Vieille Taupe, diffuser les écrits de Forisson et recueillir là aussi des soutiens inattendus, comme celui de Noam Chomsky.
Oui, c'est ça, en fait. Mais il y a toujours qui sont antisionistes ou qui se déclarent antisionistes. Il faut toujours, vous voyez, préciser certaines choses, parce que il faut faire attention, parce qu'il faut bien remettre les choses à leur place. C'est vraiment avant tout un discours antisémite, hein, le négationnisme. Alors, c'est vrai que Pierre Guillaume est une personne atypique. C'est vrai que c'est quelqu'un qui se revendique d'ultra-gauche et qui s'est rallié aussi au négationnisme pour diverses raisons, et c'est ce que le film le montre aussi. Et c'est vrai qu'il y a une constellation qui va s'agréger autour de Forisson via l'antisionisme. On parle de Noam Chomsky, et c'est vrai qu'il y a aussi un entretien qui est diffusé dans le documentaire de Jean-Gabriel Cohn-Bendit quand même. Hein. Oui. Et c'est vrai que tous ces hommes, qui vont invoquer divers arguments, lui notamment Jean-Gabriel Cohn-Bendit, la liberté d'expression, et vont défendre un temps plus ou moins long, Robert Forisson. Et on voit bien aussi que certains de leurs pseudo-arguments sont quand même très très ambigus. Hein, quoi. C'est vrai que quand on regarde le documentaire, on le ressent. Et ce qu'on voit aussi, et je voulais revenir un peu, rebondir sur ce que disait Michael, dans ce film, il faut bien s'imaginer ces pseudo-colloques qui sont organisés par ces négationnistes, quand on voit ces pseudo-colloques internationaux, notamment ceux qui sont organisés aux États-Unis. On voit bien toute cette espèce de notabilité qu'ils essayent d'avoir, cette espèce de scientifisation d'un discours qui n'existe pas. Ça, je voulais vraiment...
Oui, ça, c'est effectivement récurrent. Il y a la volonté absolue de se crédibiliser à tout prix.
Et justement, une dernière chose que je voulais préciser, aucun négationniste n'est historien. On parlait de David Irving, qui est très présent dans le documentaire. Certains se revendiquent avec l'étiquette d'historien, mais ils n'y sont pas. Voilà. Henri Rousseau intervient dans le film, et d'autres, comme Annette Vivorca, etc., sont des historiens, mais évidemment que les personnes qui sont négationnistes ne sont pas historiens.
Oui, et c'est le contraire de l'histoire, c'est-à-dire qu'on ne recherche pas les traces, on cherche à les effacer. Donc,
oui, et puis il y a cette ambiguïté avec ce pharmacien qui soutient au départ Forisson.
Jean-Claude Pressac, personnage effectivement intéressant, qui a eu son utilité quand même dans la dénonciation, la révélation de l'imposture négationniste, mais qui n'était pas lui-même dénué d'ambiguïté.
Voilà, il soutenait les théories de Faurisson, puis finalement il s'est rendu compte que tout ça était faux, mais la manière qu'il a eu de prouver, on va dire, est extrêmement ambiguë, effectivement.
Oui, alors ce revirement est tout de même assez spectaculaire, et le personnage est, par certains côtés, fascinant et intéressant. Encore une fois, je le disais, il a eu une utilité parce qu'il les a attaqués, après son revirement, sur leur terrain. Mmh. C'est-à-dire, à ce moment-là, leur terrain, c'est le terrain technique. Il faut montrer l'impossibilité des chambres à gaz. Et lui, qui est à la racine et à l'origine et qui connaît bien les ressorts du négationnisme, va finalement s'opposer à eux, pied à pied, notamment par un livre, dans lequel, un livre assez technique, lui avait une formation, vous l'avez dit, pharmacien, un peu de chimiste, de scientifique, et donc il va les attaquer sur le terrain de la scientificité proprement dite, en apportant les preuves, en apportant les éléments qui permettaient scientifiquement de contrer leur thèse.
Alors, on va peut-être passer aux années 90, parce que le temps passe. Là, on va assister, à Michael Prazan, à un véritable basculement avec l'apparition du livre « Les mythes fondateurs de la politique israélienne » et l'irruption sur la scène négationniste de Roger Garaudy, qui est un ancien résistant, ancien membre important du Parti communiste français.
Il a été numéro 3 du parti après la guerre.
Et qui, lui, va, du coup, par sa surface médiatique, on va dire, bénéficier, et puis son histoire, sa vie, de soutien extrêmement populaire, dont l'abbé Pierre. Là, on bascule dans autre chose.
Oui, alors on revient un peu sur ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que c'est l'idéologie des vaincus. Et Garaudy est, à l'évidence, quelqu'un qui a connu un moment de gloire assez spectaculaire et qui va tomber dans les tréfonds de l'histoire et de l'oubli. C'est un philosophe.
Il est exclu, hein, à ce moment-là, du Parti.
Alors, il a été exclu, effectivement, après 68, d'ailleurs, pour probablement les meilleures raisons. C'est-à-dire, c'est pour la première fois qu'il va prendre une position qui est absolument justifiée au regard de l'histoire après le printemps de Prague, d'où son exclusion du Parti communiste. Mais le Parti communiste, c'était sa famille, c'est un philosophe marxisant qui a beaucoup écrit, son œuvre est assez médiocre, il faut bien le dire, avec le recul aujourd'hui quand on relit ses œuvres. Mais enfin, c'est quelqu'un qui a été porté au nu parce qu'il y avait aussi un désert intellectuel au sein du Parti communiste après la guerre. On ne pouvait rien dire. L'expression était bâillonnée. Et donc, il a brillé au milieu de ce désert d'une certaine manière. Et il a pris l'habitude de briller. C'était quelqu'un de profondément mégalomane. Et après son exclusion au Parti communiste, il se recherche des recours. Il va le trouver notamment dans une conversion à l'islam après des errances intellectuelles assez importante et assez longue, et ça va redynamiser un petit peu son écrit, et effectivement il va sortir au milieu des années 90 un pamphlet négationniste, mais qui va relancer l'un des ressorts sous-exploités du discours négationniste, qui est de dire que la Shoah est une invention juive qui a permis la création de l'État d'Israël. Je la fais courte, voilà, en gros résumé en une phrase la thèse de son livre, qui d'ailleurs n'en est pas un, c'est plutôt une espèce de bout à bout de citations très peu démonstratives et très peu philosophiques au final, et va être tout de suite évidemment récupéré. Il voit bien Pierre Guillaume, donc l'éditeur des écrits négationnistes, parce que lui aussi est un peu en bout de course à ce moment-là, l'intérêt ou le profit qu'il peut tirer de cet écrit-là. Et évidemment, via l'amitié avec l'abbé Pierre, via l'orchestration d'un scandale fait de toutes pièces par son avocat Jacques Vergès, ça va être véritablement un scandale français à ce moment-là. Et puis ensuite suivra un retentissant procès devant la 17e chambre qui va être à l'origine de l'exportation du discours fabriqué ou refabriqué par Garaudy vers le monde arabe, qui va accueillir Garaudy véritablement comme un chef d'État, comme la plus grande figure intellectuelle française. Et ça reste une personnalité extrêmement connue, sinon la personnalité française la plus connue aujourd'hui encore, dans un certain nombre de pays. Je pense à l'Égypte, je pense à Liban, je pense bref à un certain nombre de pays arabes qui a accueilli à la fois ses écrits, ses thèses et l'homme aussi.
Alors, votre film s'arrête en 2010 à peu près, et il est dit que le négationnisme concerne désormais principalement le Moyen-Orient. Qu'est-ce que ça implique justement en termes de diffusion du négationnisme et surtout comment faire pour le combattre ?
Ça implique quand même qu'on a affaire à un envers du monde, parce que si ici, effectivement, le négationnisme n'a plus aucune audience ou très peu, il y a des pays, des territoires où c'est devenu l'histoire officielle quasiment. Et donc, comment faire pour empêcher la gangrène de gagner les âmes ? C'est très compliqué, ça passe évidemment par l'éducation. C'est des pays aussi qui étaient très fragiles, si vous voulez, d'un point de vue historique, parce qu'il n'y a aucun historien local de la Shoah ou de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est une idéologie qui s'est répandue sans entrave, si vous voulez, et qui a été évidemment du pain béni pour un certain nombre de dirigeants arabes ou de forces politiques du monde arabe qui s'en sont emparés comme un discours politique, comme une arme terrible contre Israël en temps de paix, si vous voulez. Donc, c'est devenu une arme de propagande. Et évidemment, c'est très difficile aujourd'hui de réinstaller une vérité historique dans ces territoires. Mais enfin, l'histoire prend du temps, l'éducation aussi, et rien n'est perdu si toutefois, évidemment, il y a des changements d'atmosphère, des changements de mentalité au sein de certains pays.
Est-ce que la France reste malgré tout un lieu d'où se propage ce discours négationniste dans des pays du Moyen-Orient, ou c'est comme c'était le cas à l'époque de Garaudy ?
Je crois que la France est quand même assez forte pour allumer des mèches. Mmh. Forisson en a été une à son époque, Garaudy en a été une autre un peu plus tard. Il est clair aujourd'hui que des gens comme Dieudonné et puis derrière lui Soral, par leur activisme sur Internet notamment, qui permet d'effacer les frontières, et notamment le retentissement de l'affaire Dieudonné ces dernières années, qui ont fait la une des journaux dans le monde entier, permettent quand même de redynamiser, de poursuivre un certain nombre de marqueurs installés au cours de ces différentes décennies par le discours négationniste, et de continuer à faire vivre cet antisémitisme plus ou moins masqué.
Mais c'est ça qui est donc aussi une tradition, on va dire, c'est l'utilisation médiatique. Peut-être, je m'adresse à vous, Valérie Gounet, notamment lors des procès, qui leur donnent une surface médiatique plus importante encore.
Alors ça, c'est clair, hein, et c'est ce que les médias ont un recul aujourd'hui. C'est vrai que dans les années 80 et dans les années suivantes, les affaires qui est créé toute pièce hein, par les négationnistes, était vraiment exploité par les médias et on en faisait des gorges chaudes. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Je voudrais seulement préciser une ou deux choses. Dans l'histoire du négationnisme qui est vraiment montré dans le documentaire, c'est que on passe à partir des années 2000 à un négationnisme d'État quand même. Hein, c'est-à-dire que cette internationalisation, c'est pas rien hein, que l'Iran organise une sorte de colloque sur le négationnisme. Et c'est vrai que là, je crois que les choses sont ainsi aujourd'hui. Quoi, hein. Je suis évidemment totalement d'accord avec Michael. Hein. On est dans une internationalisation pardon du négationnisme et il y a un facteur qui participe à ça, c'est évidemment Internet. En France, il existe une loi qui s'appelle la loi Guesso, qui a été votée en 90. Évidemment que Internet est un outil qui dépasse toutes les frontières et le discours s'internationalise et se développe essentiellement via ce réseau et essentiellement par des porteurs. Alors il y a Dieudonné et Forisson qui a quand même plus de 80 ans aujourd'hui et c'est vrai que la France continue à être très active dans cette diffusion, mais comme le disait Michael, c'est vrai que maintenant dans les pays arabes, etc., le négationnisme est bien là et est une arme idéologique aujourd'hui, on va dire, j'allais dire assez puissante.
Michael,
oui, j'aimerais ajouter et conclure sur ce que vient de dire Valérie, c'est que moi qui ai travaillé aussi sur la question du terrorisme, ce sont deux questions qui ont beaucoup à voir et elles fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire que bon, dans un cas, il s'agit de tuer les vivants et dans l'autre, il s'agit d'effacer les morts. Mais enfin, dans les deux cas, le discours négationnisme comme le terrorisme se propage et n'existe que grâce aux médias. Et ça, c'est vraiment un point commun. Et Valérie soulignait aujourd'hui l'accélération des médias via Internet. Et de la même manière que ça profite au groupe terroriste, eh bien ça profite aussi au discours négationniste.
Je vous remercie beaucoup Valérie Higounet et Michael Prazan. J'invite les auditeurs à regarder donc votre film Les Faussaires de l'Histoire, qui a bénéficié du soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et qui sera diffusé le 28 septembre prochain sur France 5 à 22h25. Il y aura également pour les Parisiens une projection suivie d'un débat au Mémorial de la Shoah à Paris le 23 octobre.
Je tiens à préciser que ce sera la version longue du film, puisque France 5 diffuse une version de 52 minutes et que celle que nous projetons au Mémorial sera de 62 minutes, donc 10 minutes de plus, ce qui, sur un format de cette durée-là, est tout de même important.
Plus un débat. Voilà.
Merci.
Merci à vous. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web, radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.